Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul Uzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine, Chronique pour la paix. Chers auditeurs, l'actualité forte, ce sont les élections de mi-mandat pour le renouvellement du Congrès des États-Unis. Mais, nous restons sous le choc du massacre antisémite de Pittsburgh qui nous a tous meurtris. Que se passe-t-il au pays de la liberté, là où il est commun d'affirmer que les Juifs sont respectés et en sécurité? Que se passe-t-il pour que 10 êtres humains en prière dans le temple soient assassinés à cause de leur identité? Pourquoi cette haine anti-juive dans le pays qui soutient Israël depuis si longtemps et même inconditionnellement? Nous allons demander à Alexandre Adler de répondre à nos questions. Alexandre Adler est historien, journaliste et spécialiste des relations internationales. Il vient de publier un livre remarquable, « Le temps de l'Apocalypse », qui est édité chez Grasset. Alexandre Adler, vous êtes à l'antenne, vous m'entendez ?
Oui, bien sûr.
Bonjour Alexandre.
Je vous écoute avec attention.
Merci. Alexandre Adler, on est très heureux de vous avoir. Et d'abord, je vais vous poser une question très directe. Est-ce que nous sommes en face d'une nouvelle vérité historique importante, à savoir que le plus grand crime antisémite a été commis aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump ?
Ben, le plus grand crime antisémite, so far. Et j'espère que nous n'aurons pas à le déplorer ailleurs et autrement. Mais c'est évidemment certain. Nous avons fait retentir nos cris devant les actes antisémites ou les déclarations antisémites de plus en plus nombreuses dans un pays comme la France. Bien entendu, nous en avons été victimes à de nombreuses reprises. Nous pensons bien sûr aux enfants martyrs de l'école aux Arts à Torah. Nous pensons bien sûr aussi à nos frères de Belgique qui ont été particulièrement soignés ces temps-ci. Mais bien entendu, nous étions quand même dans la grande vigilance. Il ne s'est pas passé de massacre d'une telle ampleur. Et c'est aux États-Unis, en effet, vous avez parfaitement résumé les choses, que tout cela a eu lieu. Alors bien entendu, ça n'est pas né de rien. Et bien entendu, l'antisémitisme américain a toujours existé sous des formes diverses d'ailleurs, mais qui ont toutes à voir, il faut quand même le dire, avec l'idéologie nationaliste et exclusive qui s'appelait l'isolationnisme avant-guerre et qui comportait une dimension antisémite tout à fait évidente, notamment chez un homme comme Charles Lindbergh. Et puis, bon, aujourd'hui, l'antisémitisme est revenu aux États-Unis. Il n'a jamais véritablement disparu, notamment dans des mouvements comme le Ku Klux Klan, dont le chef, qui a été élu député il y a quelques années, a participé à tous les rassemblements négationnistes, notamment à Téhéran. Donc, il ne faut pas dire que l'antisémitisme a été absolument un phénomène relativement neutre aux États-Unis. Cela dit, bien sûr, on n'a jamais associé cet antisémitisme à des crimes véritables. Et là, c'est la première fois, en effet, que nous avons un massacre qui est dû essentiellement à la mise en liberté de beaucoup de fous. Bien entendu, le Marines qui vient de se suicider après avoir tué 12 personnes dans un foyer d'étudiants, lui n'était pas antisémite particulièrement. Et je ne pense pas d'ailleurs que c'était une motivation quelconque pour un lieu qui était tout à fait protégé et qui n'était en rien lié à une idéologie ou à une religion quelconque. Mais on a aujourd'hui des fous en liberté de tous les côtés parce que Trump a permis, d'une certaine manière, les a suscités, les a fait sortir de terre, a justifié pleinement le fait de s'armer et de remettre en cause et de ne jamais remettre en cause l'amendement américain qui permet effectivement à tous ces citoyens américains de porter des armes. Et donc tout cela, bien sûr, a débouché avec un antisémitisme qui vise les élites, car les élites juives jouent un rôle de plus en plus fort, en fait, non pas résiduel, mais de plus en plus fort dans la vie américaine. Et ben voilà, c'est arrivé. Et nous avons le bilan d'un crime antisémite caractérisé, le plus spectaculaire de tout le monde occidental.
Alexandra Adler, est-ce que vous partagez, enfin vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous partagez ce que dit la presse américaine comme le New York Times, le Washington Post et surtout la presse juive d'outre-Atlantique comme le Forward que j'ai lu récemment et qui disent aussi que Donald Trump a levé le, si vous voulez, a levé le couvercle de, en, et est responsable du climat politique détestable qui a amené... Qui a eu pour conséquence le massacre de Pittsburgh.
Écoutez, une partie de cette presse politiquement correcte n'a rien trouvé à dire au fait qu'Hillary Clinton est-elle, se soit associée de manière totale, d'abord avec une dame de compagnie pakistanaise qui est membre des frères musulmans, ouais. Et ensuite, une sœur musulmane si on veut, et ensuite à une autre maintenant qui est tout aussi détestable. Comme elle ne trouve rien à dire au fait que la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui est une sectateur, une sectatrice, une sécateur, je ne sais pas, de Monsieur Trudeau, et porte toujours un voile islamique aujourd'hui, et évidemment avec un nom anglo-saxon impeccable, est en fait une autre pakistanaise. Alors dans ces conditions, je ne peux pas m'associer au Washington Post, au New York Times et à toute cette presse politiquement correcte.
Même au Forward.
Qui a été d'une islamophilie absolument déplorable et n'a cessé de remettre en cause tous ceux qui combattent aujourd'hui l'islam radical, notamment dans le monde musulman, en demandant des sanctions contre le maréchal Sissi, qui bien entendu a sauvé l'Égypte du pire et a affronté les frères musulmans de manière victorieuse et est aujourd'hui un allié très important d'Israël. Donc non, je ne fais pas cause commune avec ces gens-là. Mais en revanche, bien entendu, je suis tout à fait d'accord sur le fait que Trump a lâché avec la réhabilitation de l'isolationnisme dans ces thèmes qui sont ceux de l'extrême droite américaine, avec la libération de la haine, qui est un élément très important de son idéologie, des forces absolument incontrôlables, dont il n'est pas lui-même personnellement responsable, puisqu'on connaît cyniquement d'ailleurs son attitude de défense d'Israël. La vérité, c'est que Trump n'est ni un ami d'Israël, ni un ennemi. C'est un homme qui n'est préoccupé que de lui-même et dans un instant de folie. Je le compare en fait à un homme politique qui est le véritable auteur de la guerre de sécession, qui s'appelait le sénateur Calhoun, qui lui opérait en Caroline du Sud, et qui a inventé, dans les 20 années qui ont précédé la guerre de sécession, toute la théorie du sécessionnisme, si j'ose dire, c'est-à-dire du séparatisme des esclavagistes du Sud, la défense de l'esclavagisme à l'échelle du pays, et qui a créé un climat détestable qui a fini par exploser peu après sa mort. Mais Calhoun est le véritable, avec ces théories qui conduisaient à la sécession du Sud et à un chantage permanent sur la vie politique américaine, l'auteur de la guerre de sécession. Et aujourd'hui, évidemment, la territorialisation aux États-Unis n'est plus, ou plutôt elle est entre les banlieues et les périphéries, entre les paumés et les vaincus de la révolution industrielle que nous connaissons, et puis ceux qui en profitent cyniquement. Donc il y a véritablement un climat explosif dont Trump, par folie comme par mégalomanie, a été très capable d'exploiter au point de gagner, mais de manière tout à fait nouvelle, avec 1 million de voix de retard par rapport à Hillary Clinton, la situation. Et depuis, chassé de toute l'opinion respectable, ayant rompu avec l'armée et avec toutes les élites, il est aujourd'hui un peu aux abois, et c'est la raison pour laquelle tout lui est bon. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas dire non plus qu'il soit antisémite, surtout si on pense que sa fille préférée, Ivanka, a non seulement épousé un juif, Jared Kushner, qui est très affirmé, mais elle s'est même convertie, et ça c'est son affaire, elle s'est convertie au judaïsme, à un judaïsme très intégriste, celui du mouvement Chabad. Donc tout ça n'est pas très intéressant, tout ça n'est pas très enthousiasmant, mais on ne peut pas faire à Trump le procès de l'antisémitisme latent. Si c'était payant et si c'était possible, peut-être même ne l'eût-il pas fait parce qu'il a bon rapport avec un certain nombre de membres de l'élite juive qui ont l'imbécilité de le soutenir.
Alors, Alexandre Adler, justement, vous venez de soulever un problème qui nous intéresse tous aussi. Les électeurs juifs aux États-Unis, ils ont voté démocrate. Netanyahou et Trump, ils s'entendent très très bien. Il n'y a jamais eu une telle osmose politique entre les uns et les autres. Il y a des problèmes entre les ultra-orthodoxes au pouvoir en Israël et puis le courant libéral américain qui est très très majoritaire. Certains pensent que le judaïsme américain peut se détourner d'Israël. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver?
Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout cela, ce sont des cauchemars avec lesquels, lorsque nous sommes un peu insomniaques, ce qui m'arrive, nous sommes tout d'un coup assaillis. Mais je ne le crois évidemment pas. Je pense que l'attachement de la communauté juive des États-Unis à Israël est beaucoup plus large que ce que l'on croit. Et je pense aussi que l'attachement de la communauté juive américaine à ses racines de gauche est également large, ce qui donne évidemment un gap. On pourrait assister dans le cauchemar, je le répète, à une vraie scission, mais non, elle n'est impossible. Elle est impossible, mais évidemment, les gens qui font aujourd'hui l'opinion juive, ce sont tous des enfants du macartisme. Il faut bien rappeler quand même qu'avant d'être aujourd'hui assailli par la droite et l'alliance avec les évangélistes, qui ne sont pas tous aussi méchants qu'on le croit d'ailleurs, eh bien, les juifs américains ont d'abord été passionnément investis à gauche aux États-Unis par antiracisme, par solidarité avec la communauté noire dont elle n'a pas été repayée. Mais peu importe, c'est quand même le moment Gershwin, le moment de Port Jenbes, le moment en fait où tous les juifs américains pensaient que les noirs étaient nos alliés naturels et que c'était un devoir moral que de les défendre. Et qui ne s'est réjoui évidemment de la défaite de Max Schmeling à la boxe par ce extraordinaire champion noir qui était Joe Louis et qui a introduit la première paire de claques dont Hitler devait être ensuite garni de manière plus importante. Mais rappelons aussi la victoire, évidemment, de cet extraordinaire champion noir, Jesse Owens, qui a gâché, il faut le dire, pour le Führer pendant plusieurs jours, le triomphe, malgré tout, tout à fait pendable, des Jeux Olympiques de Berlin.
Donc on ne perd pas espoir. Alors.
C'était cela, l'Amérique. Et l'Amérique de gauche, dont les enfants ont connu la persécution macartiste, parce que les Américains, les Juifs américains avaient bien sûr des sympathies communistes, en grand nombre, eh bien, ça reste l'exil de Charlie Chaplin, les mesures en tout genre qui ont été prises à cette époque dans le macartisme et qui étaient dans de l'antisémitisme à peine déguisé, tout cela a fait la génération des Clooney et autres qui ont aujourd'hui pris la défense de leurs parents. Spielberg, le premier, dans son dernier film sur Indiana Jones, raconte le macartisme et le dénonce. Donc en fait, c'est encore tellement fort.
Ok, Alexandre Adler, je vous remercie. Parce qu'on arrive au bout de Alexandre, on arrive au bout de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Je retiens que vous avez toujours confiance au rapport entre Israël et les Juifs américains, bien qu'il y ait des petites questions. Et je vous dis à bientôt, j'espère.